rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour. Thibaut Dautuil à ce micro de Radio Présence pour une nouvelle session de nos rencontres périodiques avec les évêques de notre belle province de Midi-Pyrénées. Pendant quelques semaines, je suis accompagné de Monseigneur Echène. Bonjour Monseigneur.
Bonjour à vous.
Évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix. C'est déjà considérable, synthétiser 6 mois de travail à l'Ariège. Mais je me dis, synthétiser 6 mois de travail à Paris, parce que vous avez tous remettre la même copie, la même taille de copie, quelle que soit la taille du diocèse.
Donc, on va essayer.
Ça va être quelque chose de très impressionnant. Et 6 mois, quelque part, 6 mois, c'est très peu.
Oui, c'est peu.
C'est très peu pour laisser aux gens le temps de comprendre l'enjeu, de mesurer le besoin, de réfléchir à plusieurs, parce que vous dites que chacun peut effectivement répondre. Mais en même temps, c'est aussi la qualité de la réflexion de groupe qui pourra
Ça dit quelque chose d'ailleurs quand on aborde ces questions-là, pas simplement tout seul devant sa page blanche ou devant son ordinateur, puisqu'on peut répondre en ligne aussi, mais quand on partage cette réflexion avec d'autres, un peu comme quand on se retrouve ensemble autour de l'Évangile, il y a des lumières qui surgissent, qui sont beaucoup plus vives que quand on est tout seul, parce que là où quelques-uns sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est une manière de garantir de manière plus ferme, plus forte, plus réelle, plus sécure, la présence de l'esprit au milieu de l'échange. On risque moins de se laisser tromper que quand on est seul face à soi-même. Bon, c'est bien sûr, alors c'est malheureusement, on voit bien que le mystère de l'Église est une réalité sainte, mais elle est constituée de pécheurs. Alors bien sûr qu'au milieu de tout ça, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, il y aura aussi de l'idéologie, il y aura aussi des affrontements un petit peu liés aux histoires de chacun, mais si tout cela peut être en grande partie purifié par l'écoute de Dieu et de son esprit, cela nous fera vraiment gagner beaucoup de temps et ça nous évitera de nous engager dans des fausses pistes.
Alors, s'engager. Comment est-ce que vous avez engagé votre diocèse? Alors, vous avez dit que vous avez fait ce rassemblement pour lancer le synode, bien qu'il y a 3 semaines. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous allez maintenir le souffle? Comment est-ce que vous allez maintenir l'envie de travailler ce synode?
Alors, on a désigné une petite équipe diocésaine avec un délégué diocésain qui nous avait été demandé d'ailleurs, qui a monté son équipe pour entretenir cette dynamique dans les paroisses, dans les communautés, dans les mouvements. Et puis on s'est dit que à chaque occasion, à chaque fois qu'on avait non seulement une célébration, on a des prières pour le synode qu'on exprime chaque dimanche, mais à chaque fois je vais être dans une visite pastorale dans un secteur paroissial, bien sûr, la démarche synodale sera l'axe central. On va avoir un conseil presbytéral, on va bien sûr se pencher sur la démarche synodale. Donc comme le temps est très limité, pour qu'il s'agit de répondre avant le mois de février dans les diocèses.
C'est ça.
Donc si on n'est pas très proactif, enfin très très mobilisé dans les semaines et dans les mois qui viennent, si chacun se dit « bon, on a bien le temps, c'est une consultation », il n'en sortira rien.
Oui.
Donc il faut vraiment qu'on...
Donc vous prenez votre crosse aussi et vous allez aussi battre les chemins?
La crosse, ou même sans la crosse, parfois juste le bâton. Oui, bien sûr, moi je profite de chacune des occasions. Et puis il nous faut aussi utiliser tous les ressorts de communication. Alors on a ouvert, comme on l'avait fait déjà en 2016-2017, une sorte d'e-synode, c'est-à-dire une manière de pouvoir accéder aux questionnaires en ligne, y compris en y répondant directement sur son outil informatique. Et puis ensuite le contenu de ces réponses sur ces espaces de dialogue qui sont ouverts sont collectés et puis sont dépouillés par la petite équipe diocésaine. Donc il y a aussi des supports papier qu'on distribue dans toutes les paroisses, mais régulièrement sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, on dit bon, n'oubliez pas de vous pencher sur les questions synodales. Je vous disais en commençant que ce matin j'étais face à un journaliste de la presse locale en disant « bon, il y a parfois des gens qui sont pas tellement attentifs à ce qui se passe en paroisse ». mais qui se reconnaissent comme chrétiens, qui n'ont pas nécessairement des réseaux sociaux, qui ne vont pas nécessairement sur Internet.
Comment vous allez les toucher, ceux-là?
Par contre, ils lisent
Ouais.
La Dépêche.
Ils lisent la Dépêche. C'est grâce à la Dépêche, alors.
Donc grâce à la Dépêche, ils vont se dire, ah, mais tiens, notre évêque ou notre église s'intéresse à notre avis, peut-être qu'on va le donner. Donc voilà, on essaie de faire feu de tout bois, d'une certaine manière. Alors si vous avez des idées à nous proposer, d'ailleurs même venant d'autres diocèses, on est prêt à les accueillir.
Entendez l'appel, chers auditeurs, n'hésitez pas à
Voilà.
écrire Monseigneur Eschène et d'ailleurs, bien entendu, dans votre propre diocèse, à vous interroger que se fait-il, que se passe-t-il dans votre diocèse, où en est la démarche, comment elle a été lancée, comment elle est animée. Évidemment, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, chers auditeurs, est appelé à participer à ce synode. Donc entendez cet appel de Monseigneur Eschène et mettez-vous en marche aussi pour y participer. Je vais vous relancer en citant Monseigneur Eschène. Une phrase qui m'a frappé parmi les nombreuses qu'a prononcées Monsieur Sauvé à l'occasion de la réception de son rapport, il a dit, il appelle à la recherche d'une meilleure articulation entre la dimension verticale et la dimension horizontale, c'est-à-dire entre la hiérarchie et la synodalité. Est-ce
Oui.
qu'il faut entendre qu'elle s'oppose aujourd'hui ou parce qu'elle devrait en fait participer d'un même mouvement? Pourquoi est-ce que lui a la perception qu'elle s'oppose?
Alors, le sentiment qu'il a, il emploie une autre expression qui va un peu dans la même logique d'analyse. Il dit, faudrait qu'on apprenne à mieux distinguer le pouvoir d'ordre et le pouvoir de gouvernement. Alors le pouvoir d'ordre, c'est assez simple si on prend la messe. À un certain moment, il n'y a que le prêtre qui ait le pouvoir d'opérer la transformation du pain et du vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang du Christ.
C'est le pouvoir des
Donc
sacrements.
c'est la grâce
La
de son
grâce des sacrements.
ministère et du sacrement qu'il a reçu et lui seul. Mais le fait qu'il ait ce pouvoir d'ordre ne signifie pas qu'il soit le tout de la communauté et qu'il doive prendre tout seul toutes les décisions concernant la vie et la mission de son église paroissiale, souvent. Donc, il nous faut articuler ce pouvoir d'ordre auquel on ne peut pas renoncer, et en même temps se dire, quand il est question de la vie de la communauté de manière plus large, qui touche pas à la réalité sacramentelle, il faut vraiment que tous les baptisés soient associés. Les baptisés qui sont d'une certaine manière et d'une manière réelle par le baptême prêtre, prophète et roi. Cette dimension prêtre, ça veut dire qu'un baptisé, il peut animer la prière commune dans sa commune, dans son village, dans sa famille
Oui,
déjà.
commençons par là.
Commençons par là. Et puis ensuite, si le prêtre ne peut plus venir régulièrement dans son village, il faut qu'il se sente la responsabilité de donner le témoignage de la prière. Un baptisé, la dimension prophétique, à un certain moment, en lisant la parole de Dieu, il se dit, mais Dieu, pour aujourd'hui, pour ce temps qui est le nôtre, nous dit cela, et je vais en être le témoin, même si je ne suis pas un prédicateur, au sens où je n'ai pas été formé au séminaire pour ce travail-là. Je suis témoin du message que Dieu nous transmet par sa parole, je suis prophète. Et roi, ça veut dire la gestion des choses humaines, à un certain moment l'exercice de la charité. Comme baptisé, si dans ma commune il y a des malades qui ont besoin d'être visités, s'il y a des gens qui dorment dans la rue parce qu'ils sont sans logement, parce qu'une inondation a touché leur maison, eh bien, au nom du Christ, je suis chargé de les aimer, donc de gérer les choses temporelles qui touchent à la vie concrète de chaque jour. Donc cette dimension-là, elle n'a pas été assez mise en valeur dans l'Église, et si pour affronter des situations difficiles. C'est pour ça que Monsieur Sauvé, Jean-Marc Sauvé, y fait allusion, en particulier des prêtres qui avaient été auteurs de délits et voire de crimes. Si pour gérer la situation de ces prêtres-là, au lieu de réfléchir à quelques-uns, soit parfois l'évêque tout seul avec son vicaire général, ou l'évêque avec son conseil qui était constitué que de prêtres, eh bien nous avions réfléchi avec d'autres baptisés, hommes et femmes, qui peut-être se serait transposé dans cette situation en se disant, mais si ce qui est arrivé à ces enfants agressés par ce prêtre s'était arrivé à mes propres enfants, quelle décision est-ce que j'aurais prise? Et donc peut-être que si on avait été dans cette démarche plus participative, plus synodale, pour prendre des décisions difficiles par rapport à l'avenir d'un prêtre, on aurait été moins dans une logique de secret, de déplacement, et peut-être qu'on aurait évité que des actions malveillantes, voire criminelles, se reproduisent parce qu'on aurait veillé à ce que la personne qui s'était rendue coupable de ça ne soit pas en situation de recommencer.
Écoutez, merci beaucoup, Monseigneur Echen, de nous avoir accompagnés aujourd'hui.
Merci à vous.
Rencontre avec nos évêques.